toujours des 40 ans dans le désert pendant lesquels Moïse a tenté d'éduquer Israël. En réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Moïse est resté avec la génération de la tribu d'Égypte 2 ans et demi. Et ensuite, il les a quittés. Il les a laissés tout seuls se perdre dans le désert. C'est au bout des 40 ans qu'il s'occupait des enfants. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Pendant 2 ans et demi, il s'est occupé de la génération de la tribu d'Égypte. Quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire avec eux, alors il dit, j'attendrai la génération des enfants. La Torah raconte qu'il a planté sa tente en dehors du camp en disant « Jésus, occupe-toi d'eux quand même, ne les laisse pas seuls. » Mais lui ne pouvait pas. Ni masse. Et alors, au bout de, à la fin des 40 ans, c'est-à-dire pendant 37 ans et demi, eh bien, ce peuple tournait en rond dans le désert. Okay? Et au bout de la fin de cette période, alors, Et j'ai remis une fois cela au fait que les grandes discussions de l'étude, j'avais fait ça dure 2 ans et demi, je ne sais pas tout le temps. Et alors, à ce moment-là, il s'est adressé dans le Sefer Devarim aux enfants de la génération de la sortie d'Égypte. Alors je reviens maintenant à notre temps de ces 7 jours, où il y a un phénomène, mais beaucoup plus considérable, après ce que dit le Midrash, notre atmosphère, notre monde entre dans une atmosphère de bénédiction absolue. Il y a 2 explications qui sont données à cela. Premièrement, cette humanité va être détruite, mais il faut qu'elle ait la récompense du peu de mitzvot de vertu qu'elle a pu avoir. Ça veut dire, à part des cas exceptionnels de perversité totale, c'est pas possible que cette Chaïm n'ait pas eu un instant de vertu quelque part. Je sais pas, moi, vous avez des Chaïm qui sont des bêtes sauvages, mais leurs petits-enfants, ils ont des regards tendres. Donc ça suffit, ils méritent une réponse. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais tous ces tortionnaires des camps de concentration, quand on les a fait prisonniers, ils avaient dans la portefeuille des photos de leurs gosses desquelles ils parlaient avec attendrissement. Ça veut dire qu'ils ont quand même aimé leurs parents. Oui, je fais l'avocat du diable, okay, pour expliquer cela. Avant la fin de leur existence de Ramazé, le peu de mérite dont ils avaient à avoir la récompense, eh bien, ils l'ont eu, c'est 7 jours d'abondance. La deuxième explication, c'est clair, juste. Vous connaissez ce principe, quand les Chaïm ont du bonheur sur terre, c'est mauvais bourreau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment. Alors tout ce qu'ils avaient droit comme récompense, ils l'ont maintenant. C'est clair. C'est terrible comme explication. Enfin, je vous la cite simplement en passant. La deuxième explication, quelle est ? Ben oui, j'y arrive. La deuxième explication répond à ta question. C'est que l'humanité se rende compte que peut-être le monde, ça valait la peine d'être vécu. Vous voyez, c'est plus le choc de la conscience morale, la lucidité de l'intelligence, mais c'est l'intérêt du bonheur. Okay? Ça veut dire, subitement, le monde entre dans un temps de gadget cosmique. Et voilà, le terme que je viens d'employer montre à quel point ça ressemble aujourd'hui. Ça veut dire qu'on découvre que peut-être le monde pourrait être un paradis terrestre. Les gadgets. Et ne croyez pas que c'est Stam. Okay? Nous avons une facilité de la vie matérielle qui pourrait permettre un confort moral authentique. Facilité de la vie matérielle que des générations entières pendant des millénaires n'ont pas connu. C'est-à-dire, j'ai connu le temps où il n'y avait pas de frigidaire. Alors, pour boire froid le Shabbat après-midi, en été, eh bien, il fallait faire des sortilèges. Creuser des puits très profonds pour que ça soit à l'abri de la chaleur, compliqué. Okay? Aujourd'hui, on ouvre le frigidaire, si on a fermé et on boit froid tout de suite, le Shabbat après-midi, et ça économise du temps pour étudier ou pour dormir. Donc, ça veut dire qu'on est rentré dans un temps de ce genre, un temps de gadgets. Ça veut dire peut-être que ce monde vaut la peine d'être vécu et d'être transformé en paradis terrestre. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit transformé en paradis terrestre ? Qu'on résolve le problème moral. Je vais vous donner un exemple avec le problème de la surpopulation et le problème de la faim dans le monde. Il est évident qu'il y a suffisamment de sciences et de techniques dans le monde contemporain pour donner à manger le chefa à tout le monde. Et pourquoi il y a ce problème terrible de la faim dans le monde et ce décalage inouï qui risque d'être la cause réelle de la prochaine guerre mondiale entre les pays sous-développés et les pays riches, qu'ils soient russes ou américains, et alors que c'est évident qu'il y a suffisamment de possibilités de se nourrir sur terre pour que personne ne soit dans la famille. Pourquoi ? Parce que le problème moral n'est pas résolu. Parce que la morale, c'est la morale du surplus. Vous vous rappelez de l'offrande de Caïn, okay ? Si le problème moral était résolu, eh bien, il pourrait y avoir en une génération, va signaler la Gemara dans Pérékhaï de Sanhedrin, combien de temps dureront les temps messianiques de la fin de l'histoire de la Russie au commencement de l'histoire de la Ramada ? Il suffirait d'une génération pour qu'on connaisse, on installe les temps messianiques. Ça veut dire qu'il y aurait des ventilateurs en été dans les rues, et puis des chauffages centrales en hiver, dans les rues. Et tout le monde serait bien. Pourquoi ? On n'a pas d'argent. Pourquoi ? À cause des budgets militaires. Mais s'il n'y avait plus de budget militaire, il y aurait des chauffages centrales dans les rues. Vous avez compris un peu ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on entrerait dans le temps du paradis sur Terre si le problème moral était résolu. Bon, j'ai beaucoup raccourci le raisonnement, mais je crois que vous êtes familier. Okay ? Imaginez cette énergie inouïe, tant au niveau de l'investissement intellectuel que financier, économique, industriel, pour la guerre, si ça n'existait plus, en une génération, on transforme la planète en paradis terrestre. Il n'y a pas de problème avec la technique et la science actuelle. C'est-à-dire on est rentré dans ces 7 jours. Alors, même ça, voilà ce qu'on risque de perdre. Ça valait la peine. On a gâché ça, même ça. Ça n'a pas servi de planche de rattrapage. Alors vous voyez, 3 dimensions de ces 7 jours de souci. La mort du juste, la présence de Dieu, et puis le bonheur d'être. Et bien, ces 3 choses-là, qui sont Ben Adam HaMakom, Ben Adam HaHavo, Ben Adam HaAtmo, c'est ces 3 dimensions, de cette expérience de casser Olam Haba dans Olam Hazeh, on leur a donné pendant 7 jours, et bien, ça n'a non plus pas servi. Alors, la Gzera est arrivée au bout du 7 jours. Voilà, je vous ai beaucoup schématisé. Je pense que vous avez une tournée suffisante de cet enseignement. Okay. Peut-être qu'il a jugé que Abel n'était pas éducable. Il s'est détaché, carasse. Okay.
Vous avez fait avec la parenthèse.
Ah non, 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 j'ai une nouvelle parenthèse sur quelque chose que j'ai dit avant de s'arriver. Oui, c'était que cette lignée de Chète devait arriver à diminuer son envergure pour être au niveau des gens qu'elle prend en charge. Quand on est trop haut, ça devient inefficace. Quand Josué remplace Moïse, c'est une chute de niveau du guide. Josué, c'est Josué, mais par rapport à Moïse, Moïse était trop bon. Alors, vous avez compris un peu l'idée. L'Echred Mina. Effectivement, on voit que c'est au moment de Meriba, lorsque le peuple réclame de l'eau, et que Moïse, au lieu de prier pour le peuple comme d'habitude, de l'excuser devant Dieu, les traite de rebelles, Shimuna Amori. Okay? Et c'est là que le Midrash explique, c'est là que Josué va le remplacer. Quelle est la faute qu'il y a là, entre guillemets ? C'est pas une faute, je ne sais pas l'explication du Rambam. De Maïmonide, il s'est mis en colère. Or, se mettre en colère, c'est une faute pour le prophète. Mais il y a des saintes colères. Là, je réponds un peu, si je veux dire, à l'explication du Rambam. Il y a des colères justifiées, il y a des saintes colères. Alors, il y a une autre explication de la Kabbalah qui dit, juste, et le Midrash aussi, jusque-là, il intercédait pour le peuple quand il y avait une faute, mais là, il n'a pas intercédé. Alors, Dieu juge qu'il ne peut plus diriger le peuple, s'il ne peut plus intercéder pour le peuple. C'est clair. Et ici, il y a un très joli Midrash à propos du Ben Sérieux ou Moré. Tu connais ce Midrash ? Je vais l'expliquer. Vous savez qu'il y a une mitzvah pour lancer un fils rebelle. On doit le punir. Et c'est ce mot de Moré qui peut signifier soit rebelle, soit professeur. Okay ? Alors, Shimon a Moré, c'est ambigu. Ça veut dire que c'est une responsabilité d'être professeur. Parce que si. J'ai compris qu'il y a des Shimon HaMorim, c'est pas seulement écouter enfants rebelles, ça veut dire écouter les professeurs. Bon, vous avez compris. Voilà donc, en tout cas pour ce premier sujet, puisqu'il est déjà midi passé, en 35 minutes de temps, et j'aborderai le deuxième sujet. À moins qu'il y ait une question encore sur ce premier sujet. De la performance. Ok, parle plus fort.
Vous avez vu le nom de David ?
Oui.
Vous avez vu le rapport avec l'épisode de Shrem ?
Oui.
Où Yaakov a
Attends, explique-nous ta question. Je crois que je devine, mais explique-nous, c'est pas clair.
Vous avez dit qu'Hachem, l'épisode de Shimon et Lévi, quand ils ont été tués, quand ils ont été tués de Galil au premier jour de la
circoncision. Oui.
Et que vous avez dit pourquoi Jacob vous a demandé après. Vous dites parce qu'on voit que Jacob, il pouvait faire une alliance, et qu'après, en tant qu'Israël, il ne pouvait pas.
Le niveau qui s'appelle Jacob dans ce récit est beaucoup plus bas que le niveau Israël. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de stratégie, de complaisance, de compromis, qu'au niveau de l'identité de Jacob, on pourrait accepter, et qu'on voit d'ailleurs dans notre histoire. Et le juif galutique a une stratégie de se courber devant les amis. Jacob se courbe devant les amis, Israël se courbe. Et alors, il a été déjà nommé Israël, mais il agit en tant que Jacob. Et j'espère que c'est clair ce que je dis là, sinon vous me direz qu'est-ce qu'il y a dans les différents mots, on avait déjà expliqué. Et par conséquent, en tant que Jacob, il peut espérer, bon, Shrem s'est conduit comme un barbare, ça fait rien, on va faire alliance avec lui. On ne peut pas demander à un goy de ne pas être barbare. C'est d'ailleurs méprisant pour les goïdes, c'est peut-être bien que barbare, on fera alliance. Et tandis que Shimon et Lévi disent, mais voilà, Bé Israël, au niveau d'Israël, l'identité d'Israël, tout ça, impossible. Mais Shimon et Lévi réagissent par rapport à l'identité d'Israël, alors que Jacob, pas encore au niveau d'Israël, serait prêt à accepter un compromis. C'est compliqué. Alors, j'ajouterais que dans les bénédictions de Jacob à ses fils, il semble, et beaucoup de commentateurs le mettent en évidence, qu'il reprend, qu'il n'a pas oublié cette réprimande par Shimon et Lévi. Il dit Arour a pas qui as, Ebrata qui kachata, a chalekem et Jacob a fissem et Israël. En parlant, voilà la bénédiction qui donne à Shimon et Lévi. C'est vrai. Maudit de leur colère parce qu'elle est forte, et leur courroux parce qu'il est dur, je les répartirai dans Jacob et je les disperserai en Israël. Alors ça c'est le pshat habituel, okay, que même au moment de sa mort, Jacob devenu Israël, et bénédiction c'est d'Israël à ses fils, okay, ne leur aurait pas oublié cet épisode et les aurait désignés comme étant des canaïstes, okay, en hébreu des canaïstes. Lisez bien quand c'est en hébreu. Comment c'est en hébreu? Arour apam kiaz. Ils sont capables de la colère, de la vengeance, de la colère du juste, de la vengeance du juste. Israël est appelé une rêve à l'appareil. Comment? Le prince de la ville demande Dina en mariage, il commence par la violer. On lève ça. Avec cela, tu veux qu'on fasse alliance? C'est ce que les enfants disent à leur père. Et leur père leur répond comme Jacob, comme le juste du ghetto. On essaye peut-être, on ne peut pas faire autrement, pourquoi pas? Arshav, on verra après. Et alors Israël dit, Shimon ben Lévi dit, Israël, jamais de la vie n'avait apparu. Alors, en réalité, qu'est-ce que dit Jacob dans cette bénédiction? Je vous change de niveau de lecture. Arour apam kiaz, ça a l'air d'être une condamnation. Maudite soit leur colère, car elle est azga, ça veut dire impétueuse, dure. Changez le sens du qui. Arour apam kiaz, leur colère est maudite si elle est azga, mais elle n'est pas azga, elle est colère. Mais Abraham, qui cache à faire? Et le courroux, quand il exagère. Parce que l'exagération est tout même dans le zèle, c'est une exagération, c'est vrai. Alors, et il continue. À Halekem et à Akob, à Pissem et Israël. Et vous allez relier cela à la dernière étude qu'on a eue la semaine dernière. C'est Canaïm, Shimon et Lévi, s'ils font bande à part et ils font un peuple d'Israël à part, c'est dangereux. C'est le levain qui est repris. Donc je les répartirai dans Jacob, je les répartirai dans Israël, parce qu'Israël et Jacob ont besoin de ce que okay. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire un parti extrémiste. Il faut qu'il y ait des extrémistes partout. Alors, si vous voulez, on va prendre 5 minutes sur l'aération. Le récit doit être étudié, il y a énormément d'enseignements qui sont donnés et qui ont... soit une portée générale, soit une portée particulière, mais on n'a pas le temps, ne croyez pas qu'on a vu même pas l'essentiel, disons l'allure générale du récit. Et voilà donc qu'après le déluge, l'histoire de l'humanité va recommencer à partir de cette manière d'être l'homme antérieur, mais dans la forme du tzaddik selon Noah, et se produit dans ces 10 générations qui vont de Noah à Abraham, Mais nous faisons une étude consacrée à la différence de statut du tzadik comme Noir et du tzadik comme Abraham. Ça, à mon retour de voyage, nous verrons ça plus en détail. Dans ces dégénérations, se produit un phénomène très important. C'est la destruction de ce qu'on appelle aujourd'hui, un peu dans le vocabulaire de la culture contemporaine, l'universel humain, l'unité de l'ensemble de l'humanité. Effectivement, la Torah va nous indiquer que cette nouvelle humanité qui recommence, remise en jeu à partir de Noé et de sa famille, connaît un long temps d'universel humain. Et vous devinez déjà l'importance de cette indication que nous allons essayer d'approfondir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de conflit entre les différentes manières d'être homme qui se déploient à travers les différentes familles issues de cette famille primordiale qui est la famille de Noé. Tout le malheur de l'humanité connu dans le temps antérieur jusqu'au déluge, la lutte entre les différentes manières d'être homme, à partir de l'équation schématique Caïn-Abel, et qui vont revenir après l'épisode de la catastrophe de Babel, qui définissent l'histoire humaine jusqu'à nous, la lutte des différentes manières d'être homme entre elles, et c'est le problème de Caïn et Abel, mais à l'échelle des sociétés, à l'échelle des groupes collectifs, n'était pas connu jusqu'à un certain temps. C'est indiqué par un verset très important que vous allez prendre, c'est le premier verset du chapitre 11, où la Torah nous indique qu'il y a un universel humain concret et réel. Et à partir de cette observation, je vous donnerai un certain nombre de schémas sur les problèmes qui se développent jusqu'à l'apparition d'Abraham. Voilà ce que nous dit la Torah. Vayi kol haaretz safa achat, safa echat, udvarim ahadim. Et toute la terre était langue unique et parole particulière. Je vais expliquer la traduction que je vous donne, qui n'est pas la traduction habituelle que vous avez dans vos traductions en français. Je ne sais pas si vous avez un livre en français, non ? Quelqu'un ? Alors vous verrez. Non, mais c'est important parfois de voir les erreurs qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette observation. Ça a l'air d'être ça me semble assez grave. C'est-à-dire même des Bibles autorisées, c'est-à-dire par des traducteurs autorisés, la Bible du rabbinat, vous avez souvent en bas de page verset obscur. Alors si la Bible du rabbinat marque verset obscur, mais on est rassuré, dans les Bibles chrétiennes, il n'y a pas marqué verset obscur. Tout est obscur. Pour revenir à la lumière. Et en fait, il y a des versets difficiles à traduire dans les langues qui sont en hébreu. Mais si on prend la précaution de voir comment le Talmud explique le verset en question, on devient capable de le traduire même dans une autre langue. Seulement, il y a des gens qui n'osent pas ouvrir le texte. Alors, je reviens à la traduction que vous trouverez dans les traductions habituelles, dit à peu près ceci: or, toute la terre était langue unique et parole semblable. Pour traduire, Safa Echa, langue unique, ou Dvarim Ahadim. On y traduit en général les paroles semblables. Là, il y a ici une invraisemblance du texte qui serait ce qu'on appelle en français un pléonasme. Vous savez que le texte du Mikra est économe de chaque mot, de chaque lettre. Il ne va pas se répéter comme ça, purement et simplement. En fait, j'ai aussi un enseignement du Talmud qui se trouve dans le Yerushalmi, Megillah, chapitre 1, halakha 9. Il dit ceci: la terre tout entière, c'est-à-dire toute l'humanité sur terre, parlait une langue unique, la même pour tous, et chaque famille humaine, chaque peuple avait son dialecte particulier. Donc voilà quelle est la situation de ce que je vous appellerai l'universel réussi. Il y a unité humaine à un certain niveau de l'universel, et puis il n'y a pas monotonie. Chaque manière d'être homme a son génie propre, et il y avait la paix entre les familles. C'est clair jusque-là ? Bon, alors c'est très important de voir que la Torah définit l'universel humain au niveau de la langue. Vous vous rappelez du verset que nous avons étudié, je vais dire à la fin, c'est le verset 7 du chapitre 2, où l'homme est défini comme capacité de langage. Ce verset de Vayitzer Hashem Elokim, Vayi Adam et Nefesh Chaya, Vele Vashi, Kungelos, personne capable de parler, être vivant capable de parler. Vous vous rappelez de cela ? Top. Alors si l'homme se définit dans sa spécificité en tant qu'être vivant par la parole, dire qu'il y avait une langue unique dans toute l'humanité, c'est désigner très directement et très profondément qu'il y avait universel réel. Alors nous allons voir, cet universel humain va disparaître dans la catastrophe de la tour de Babel, et il va rester comme une sorte d'idéal, de rêve, de toutes les traditions, de toutes les sociétés, de toutes les civilisations, de toutes les histoires de l'homme depuis. Et corollairement, ça va être la perspective messianique en Israël, de reconstruction de l'universel humain. Et nous allons voir que la Torah nous explique, dans le commencement de cette histoire, il y a deux possibilités. Les tentatives de reconstruire l'universel humain chez les goyim, et nous verrons qui sont les goyim à partir de cet universel humain éclaté, et c'est un échec perpétuel. Et d'autre part, la perspective de la reconstruction messianique de l'universel humain à partir des patriarches, à partir d'Abraham, et la perspective du royaume messianique opposé aux empires qui dérivent des sociétés d'égoïsme. Voilà, c'est très schématique comme plan général, je vous annonce de quoi nous allons parler maintenant. Alors, que s'est-il passé à Babel? Eh bien, il y a eu un projet de révolte contre le principe de l'unité représenté par la souveraineté du Dieu 1. Le récit, la construction de la tour de Babel, c'est un récit qu'il faut étudier très attentivement et ne pas risquer de trop schématiser ce que la Torah dit comme elle le dit. C'est un développement de la civilisation humaine, mais qui prend assez rapidement la parole d'une révolte contre Dieu. À l'échelle collective de l'humanité, c'est très parallèle à la révolte individuelle d'Adam Arishon dans sa désobéissance. Na'aseh lanu shem. Il y a un verset qui explique le projet des constructeurs de la tour de Babel. Nous nous approprierons le nom. Na'aseh lanu shem. Certains traducteurs vous diront de façon assez atténuée. Nous allons faire cette tour pour notre réputation. Shem peut vous dire réputation. Mais si on prend les formulations du Mikra dans le sens le plus énergique, c'est-à-dire que l'humanité, en tant qu'humanité, veut s'approprier le nom de la transcendance divine. C'est, si vous voulez, la faute du premier homme, mais à l'échelle de l'humanité tout entière. Et alors il en résulte que la langue unique va disparaître. Cette révolte de l'humanité contre le principe de l'un fait disparaître ce qui est un au niveau anthropologique, si je veux dire, au niveau des hommes mêmes. La langue unique va disparaître, il ne va rester que les dialectes particuliers. Et c'est pourquoi les hommes ne se comprennent plus entre eux. Alors je reprends le récit, comme on a tendance de le lire habituellement, de façon invraisemblable d'ailleurs, un peu magique, et nous reprendrons la lecture telle que la Torah nous l'indique. Habituellement, on a tendance à expliquer que tous les hommes parlaient la même langue, et que subitement ils sont mis à parler des langues différentes. Alors ils se comprenaient plus. C'est un petit peu une explication magique. C'est clair ? En réalité, ce qui se passe est beaucoup plus grave et fondamental. Et je vous prends l'exemple d'un pays moderne. Vous avez la langue nationale, prenons l'exemple de la France. La langue nationale, c'est le français. Chaque province a son dialecte particulier. Alors imaginez que le français disparaisse, les bretons, s'ils parlaient breton, ne comprendraient plus les alsaciens, s'ils parlaient alsaciens, les auvergnats, les occitans, etc. Et à peu près ce qui se passe à l'échelle de l'humanité. C'est-à-dire, il ne reste que le dialecte particulier, alors on se comprend. C'est une description de l'universel humain concret, réel, importante à approfondir. S'il n'y a qu'une langue unique, c'est la société des robots, le meilleur des mondes, c'est le pire, l'uniformité absolue. En réalité, il ne s'agit pas de ça, il y a unité dans la diversité, et la diversité est un signe de la richesse du génie humain. Chaque manière d'être homme s'exprime par cette varima hadimani, son dialecte à lui, son langage, si vous voulez, mais il y a une langue humaine. Or, la langue humaine a disparu, avec elle, la paix entre les hommes. Et ça commence à se chamailler, si je dis. C'est clair que cette langue unique, l'humanité, on a toujours gardé le rêve de nostalgie. Alors, je vous dirais, assez schématiquement, mais c'est important de le savoir, en partie, elle est retrouvée au niveau du langage qui exprime la vérité de la matière. C'est la langue des sciences, des mathématiques, une langue internationale. Enfin, une langue vraiment universelle. Pas internationale, c'est cosmopolite, ça. Une langue universelle. Un savant qui pense la mathématique pour parler des réalités matérielles est au-delà de la division des sociétés. Il est à l'échelle universelle. Et ça, c'est le génie des Grecs qui ont donné à l'humanité la mathématique comme langage des sciences. C'est-à-dire la langue unique d'exploration de la matière. Mais la langue unique d'exploration de l'esprit est toujours occulté. D'où cette espèce d'état de guerre perpétuelle, des idéaux humains qui sont tous des idéaux, mais en guerre. Parce qu'on manque de langue unique. Vous savez très bien que là, nous abordons un problème extrêmement important. Ça veut dire que la vision de l'universel reste un rêve, une nostalgie d'un paradis perdu. Toutes les civilisations tentent de le reconstruire, mais semble-t-il, l'instrument manque. Vous savez que, à certains moments du temps, il y a des tentatives de retrouver une langue universelle, pas seulement au niveau de la quantité, de la mathématique, mais de la qualité, une langue littéraire, si vous voulez. Bon, vous savez aussi que beaucoup de Juifs sont obsédés par ça, au point qu'ils en ont fondé des langues de ce genre. Il y en a une qui me revient à l'esprit, qui s'appelle l'espéranto. C'est un juif qui a trouvé ça. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Elles ont toujours échoué, ces langues-là. Mais qu'est-ce qui se laisse deviner comme idéal de recherche? De retrouver un moyen de communication de l'universel pour reconstruire l'universel. Et d'ailleurs, c'est pas vrai que ça s'appelle l'espéranto. Si vous voyez, c'était cette espérance qui était véhiculée, mais c'est un échec perpétuel. Bon, René Lacour dit que cette langue unique fait le vrai. Qui était la langue du premier homme et qui est gardée dans la lignée des initiés jusqu'au patriarche. Ça, nous réétudierons avec l'intitulé que donne la Torah à Abraham, Abraham l'hébreu. D'où vient cette identité hébraïque? Donc, mettons ça en parenthèse et je vais essayer de vous décrire dans mon premier schéma ce que la Torah nous dit en parlant des empires, de la manière dont les goïms, les nations, livrées à elles-mêmes, n'arrivent pas à trouver de solution à leur propre rêve de l'universalisme. D'où viennent les nations? Les goïms. En hébreu, le mot est neutre. Il n'y a pas le sens péjoratif qu'il y a dans les langues juives. Quand on dit un goï, ça fait péjoratif. Bon, ça vient de ce que les goïms nous ont fait pendant des milliers d'années. Alors les juifs, parlant les langues juives, ont tendance à mettre une connotation négative au mot de goï. Mais au niveau du Biskra, c'est un mot qui signifie les nations. C'est clair. En français, on dit les gentils. Ça vient du latin gentillesse. Pas d'allusion en fait, qu'en général ils sont méchants, mais enfin on les appelle les gentils. Et les gens, comme on dit en français. Okay. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? Eh bien, c'est le résultat de l'éclatement de cette unité perdue. Lorsque cette unité a été perdue, il en est résulté les nations. Et l'histoire des nations va commencer. Il y a dans le Zohar une image qui est plus qu'une image. Quand Dieu regarde son œuvre dans un miroir, il voit l'homme. Mais voilà, le miroir a été brisé. Alors il y a des myriades d'éclats de miroir, et cette figure de l'homme, elle est caricaturée en autant de goy. Vous avez compris l'idée, okay? Mais imaginez un miroir brisé, alors l'image est éclatée. Okay? C'est la diaspora de l'humanité. Alors, premier schéma, très important pour nous, aujourd'hui, de récupérer cette évidence. D'après la Torah, c'est pas la manière d'être Israël qui est en diaspora. Je veux dire, ce n'est pas la manière d'Israël d'être en diaspora. C'est les goïms qui sont en diaspora. La manière naturelle d'être de diaspora, c'est celle des goïms pour la Torah, pas celle d'Israël. Vous voyez à quel point les juifs de la Gola se trompent lorsqu'ils disent que c'est notre manière d'être. Je vous rappelle la question tout à l'heure, d'être en diaspora. Nous verrons que la diaspora d'Israël est seconde par rapport à la diaspora des goïms. Mais qu'originellement, les goïms sont pensée comme étant l'humanité en diaspora d'elle-même. C'est une humanité qui a éclaté. L'unité humaine a diasporisé. Vous connaissez ce mot en français, diaspore. Vous savez que c'est un spore? C'est des gènes, des végétaux, ça s'appelle des spores. Quand un spore éclate, on dit diaspore. C'est un mot grec qui signifie éclatement d'une unité. Et c'est donc les goïms qui sont en diaspora. C'est la diaspora de l'unité humaine. C'est clair? Alors, que se passe-t-il? Donc, c'est un premier schéma important. Si vous voulez, on l'approfondira un jour, vous l'étudierez d'autre part, de corriger cette erreur de la conscience juive qui vient de l'inertie de 2000 ans d'exil, ce qui est considérable, de cette habitualité à la contre-idée, à la contre-évidence, que la manière naturelle d'être des juifs, c'est d'être dispersé. C'est tout le contraire. Pour la Torah, c'est la manière naturelle d'être des goïms, d'être dispersés. Un Français est en dispersion d'Allemagne, un Allemand en dispersion de la France, etc. Et les Juifs sont en dispersion d'Israël, greffés sur la dispersion humaine, avec un objectif messianique que nous verrons par la suite. mais c'est une manière non naturelle d'être pour Israël, d'être en esclavage. Et quand un juif de la Golane a perdu ce sentiment qu'il est anormal, alors c'est là qu'il est vraiment anormal. Ça veut dire, c'est à vous, il n'y a plus d'espoir. Est-ce que c'est clair? Un grand principe en médecine, quand un malade sait qu'il est malade, il y a un espoir de guérir. Mais s'il ne sait même pas qu'il est malade, à vous. Surtout en maladie mentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que les juifs nomment le pays de l'exil les terres d'asile. Je reviens au problème. Bon, j'espère que vous découvrez cela. Il y a une erreur que l'inertie du temps, de l'habitude, a installée dans la conscience. Que c'est normal pour un juif d'être en voyage. C'est pas normal pour un juif d'être en voyage. Mais Shifterra Bevetecha, on ne le fera pas derrière. Il y a deux éventualités. Mais ce qui est normal, c'est d'être chez soi. Et alors, pourquoi ces voyages des juifs? On verra que c'est un objectif. Mais c'est greffé sur une diaspora qui est, elle, connaturelle au Golou, la diaspora des nations. C'est clair? Alors, essayons de nous habituer à cette idée. Ce n'est pas un chidou. Simplement, on retrouve ce que la Torah nous a dit. Et je pense que ça va vous remettre en place énormément de contradictions d'évidence. Il faut répudier, rejeter, évacuer cette fausse notion juive de l'exil, que l'exil est naturel au Golou. C'est tout le contraire en connaissant. Et je pense que c'est clair ce que je dis là. Les juifs ont toujours eu la conscience qu'ils étaient en situation anormale provisoire. Alors quand le provisoire dure longtemps, on croit que c'est devenu le naturel. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors c'est le non-naturel qui est là derrière. Et alors là, dans nos controverses, dans nos colloques avec les juifs de la Gola, ça se perçoit ce danger. Déjà, depuis l'émancipation, beaucoup de juifs ne ressentent plus qu'est-ce que c'est en exil. Alors c'est là qu'ils sont vraiment en exil, parce qu'ils le ressentent même plus. Est-ce que c'est clair? Parce que la manière, si vous voulez, naturelle de tout peuple, c'est d'être chez lui, Israël y compris. Même quand un autre peuple est exilé, tant qu'il se sait en exil de son endroit, la Torah considère cela comme un galout aussi dur que le galout d'Israël. Exilé des Français au Canada, eh bien, ce sont des Français exilés au Canada. Et ça les travaille. Je connais un peu les Français du Canada, et ça les travaille, au point qu'ils se prennent pour les vrais Français. Et il y a de quoi? Parce qu'ils ont gardé l'identité française du temps de leur voyage. Alors cette identité française du temps de leur voyage s'est perdue en France. Sauf dans des petits coins de paysannerie très française. Oui. Et alors voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Ils ont oublié que la galoute, la diaspora pour parler français, c'est la diaspora des Goïs. Et que la diaspora d'Israël a une fonction que je commencerai un peu à analyser, qui a une portée messianique, qu'il faudra découvrir, mais qui est seconde. La diaspora d'Israël est seconde, greffée sur la diaspora des Goïs. Et on peut comprendre la finalité de cette diaspora d'Israël qui est seconde, que par rapport à l'objectif messianique de mettre fin à la diaspora des Goïs, on appellera ça Malchut HaMashiach, le royaume messianique. Et si on le comprend dans ce couple de notions, Galut Geula, si vous coupez la notion de Galut pour elle-même, l'autonomie pour elle-même, elle devient incompréhensible. Il n'y a que lorsqu'elle est liée à la deuxième notion de la Geula qu'on comprend que ça a pu avoir un sens. Est-ce que c'est bien? Si on oublie que Galut mène à Geula, alors on ne comprend plus ni Geula ni Galut. Est-ce que c'est clair? Et vous retrouverez ça dans le plus d'arrivée à l'église de façon très abondante, très circonstanciée, mais on s'y réfère. Ça ne veut pas dire que la galoute n'a pas eu de sens. Le vrai problème, ce n'est pas est-ce que la galoute a un sens ou pas. Le vrai problème, c'est dans quel temps nous nous trouvons. Est-ce que nous nous trouvons dans un temps de galoute? Alors c'est Joseph d'Égypte qui est la figure de Tzadik. Est-ce que nous nous trouvons dans un temps de retour? Alors c'est Moïse qui est la figure de Tzadik. Vous voyez à quoi je me réfère dans l'histoire. Joseph, c'est l'hébreu déguisé en égyptien, greffé sur l'égyptien. Moïse, c'est cet hébreu déguisé en égyptien qui enlève le déguisement égyptien et qui redevient hébreu. Vous avez remarqué ça? Bon. Et ça veut dire que la vraie question, c'est dans quel temps nous nous trouvons. Et vous savez très bien que la majorité du peuple des Hébreux, au temps de Moïse, disait qu'ils étaient au temps de Joseph. Et ils sont ressortis d'Égypte. Eh bien, c'est la même chose de notre temps. Vous voyez qu'on n'a pas changé, les Hébreux. Okay? Les mêmes tsarotes qui reconnaissent. Alors, ça veut dire, c'est ça la vraie question. il ne faut pas tomber dans l'erreur de dire la galoute, ça n'avait jamais aucun sens. Le Tanakh tout entier est plein d'explications à quoi ça sert la galoute. Est-ce que c'est clair? Et on l'apprendra, et vous l'apprendrez. Mais là, le vrai problème, c'est dans quel temps nous nous trouvons. Si nous nous trouvons dans un temps de galoute, c'est un crime de revenir. C'est ça que dit Benoît. Hein? Mais si nous nous trouvons dans un temps de Géoula, c'est un crime d'être en galoute. C'est ça que dit l'Israël. Et oui, ce conflit est un conflit très grave. C'est le conflit qui est apparu quand Moïse est apparu dans l'histoire d'Israël. C'est ce même conflit que la génération des Hébreux de l'Égypte a vécu. Et on ne peut pas ne pas être inquiet de voir qu'il y a la même proportion. En tout cas, pour les années que nous vivons, ça va changer. La même proportion de 1 cinquième, 4 cinquième que vous connaissez. Comme quoi, il y a ici quelque chose d'important à comprendre. On le retrouvera dans d'autres dans et alors, donc je reviens à la diaspora des Goïms. Eh bien, on s'aperçoit dans l'histoire des Goïms qu'à chaque époque, une des nations prend la tête de l'humanité pour des raisons que les historiens établissent de façon très claire, des raisons de développement économique, militaire, politique, intellectuel. Alors chaque nation arrivait en tête, disons, figure de proue, si vous voulez, de l'humanité. On va prendre l'exemple des Grecs, qui est très familier en Occident. En leur temps, les Grecs sont devenus la figure de proue de la civilisation des Goïms et qui tentent de reconstruire l'universalité. Alors nous allons voir la première règle que je veux analyser. C'est qu'il y a toujours échec et qu'il n'y a jamais d'exception. Le rêve de cette reconstruction de l'universel, on le lit chez les philosophes ou les sages de la nation en question comme un vrai rêve. Mais ça bascule tout de suite dans le contraire de l'universalisme qui est l'impérialisme. Et quelle est la différence? La reconstruction de l'universel, c'est qu'il y a une humanité une et chaque nation y a sa place. À chacune suivant son génie. Imaginez l'image d'un orchestre que j'aime souvent. L'orchestre est un, chaque instrument est l'esprit. Ou un bouquet de fleurs. Le bouquet est un, mais chaque fleur est l'esprit. Ça, c'est l'universel. Alors, il y a la musique et il y a le parfum. Mais qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? C'est une nation qui tente d'imposer sa manière d'être impérialistement aux autres nations. Ça, c'est le grand but. Vous avez compris? Alors, nous voyons qu'il n'y a pas d'exception. Tous les rêves de l'universel ont basculé dans les empires. C'est ce que... Il n'y a pas d'exception. Et c'est ce que la Torah appelle les malchouyotes, les différents empires que l'histoire a connus, qui se succéderont jusqu'à l'épuisement de cette série, d'ailleurs nous sommes à la fin du dernier, d'après la nomenclature du Midrash que je vous citerai, et il y en a quatre, et la cinquième étape, c'est l'empire messianique. L'empire, le malchouyot, c'est-à-dire le royaume. Donc je reprends la définition. Quelle différence il y a entre l'universalisme et l'impérialisme? Retenez bien cela. L'universalisme, c'est de reconstruire ce qui s'est perdu, qui est indiqué au verset 1 du chapitre 11. Unité, mais non pas uniformité, universalité. Et c'est resté en rêve dans toutes les consciences humaines de bonne foi, quelle que soit leur civilisation, leur tradition, leur religion. C'est ça que les hommes cherchent dans la vie. Refaire l'universalisme. C'est clair? Et on voit que ça échoue toujours. Donc il faut qu'il y ait une explication. Il y a une sorte de fatalité, les goïms n'arrivent pas à faire autre chose que des empires, alors qu'ils rêvent à l'univers. Ce que j'ajoute, c'est un peu schématique, mais réfléchissez bien. C'est indéniable que leur rêve universel est authentique, et c'est indéniable que leur échec de l'empire est aussi fatal. Et il y a pas d'exemple. Je vous prends un exemple qui vous est très familier. La Révolution française. Vous étudiez les philosophes de la Révolution française, surtout les encyclopédies qui ont été les très papiers de la Révolution française, mais que ce rêve de l'universel était authentique. Et il a d'ailleurs fasciné des Juifs, au point que énormément de Juifs sont perdus là-dedans. Et sans compter la Révolution russe qui a repris ça après, alors là, les Juifs, bon. Mais je reprends la Révolution française. Eh bien, on ne peut pas ne pas remarquer que quelques années après, c'est l'Empire français. Et à partir de l'Empire français, on sait que la République n'est belle que sous l'Empire. Et tous les autres républiques, c'était les empires déguisés, y compris la République actuelle. Et vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et ça se passe partout, dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés. Alors, l'explication que je vais vous proposer, on ne réfléchit pas si ce n'est pas suffisamment évident, c'est que le rêve est à l'échelle de l'universel, mais que le véhicule n'est pas adapté à ce rêve. C'est des manières partielles d'être homme qui veulent réaliser l'homme universel. Alors, inévitablement, dès que ça se concrétise, ça se particularise et ça devient intéressant. Est-ce que c'est clair? La France de la Révolution française parle de l'homme universel. Mais qu'est-ce qu'elle réalise dans son histoire, l'Empire français? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est être universel? C'est être français. Une espèce de naïveté politique de ces empires qui est déconcertante. Est-ce que c'est, vous avez compris? On a parlé de l'Afrique. Imaginez les petits Sénégalais, les petits Camerounais, les petits, ce que vous voudrez, qui ont récité pieusement nos ancêtres les Bobos. Il suffit de prendre acte de ça. C'est-à-dire, l'instituteur français très naïf était persuadé de bonne foi que l'homme universel, c'est Gaulois, et donc que c'est un honneur pour le petit Sénégalais d'avoir un ancêtre Gaulois, putatif, hypothétique. Il a fallu du temps pour que les Sénégalais et les Juifs secouent les épaules et se disent on nous a eu. C'est vrai ? Deuxième fois, ce compte de balle, on va s'arrêter là, puisque c'est l'heure. C'est le premier schéma, vous voyez, le rêve de l'universel qui bascule dans l'échec de l'Empire, on le prendra la prochaine fois, il y en a d'autres, des thèmes importants de cette époque. J'ai dit une fois sur le fond de blague dans un autre cours, qu'au fond les Juifs sont les seuls à pouvoir dire nos ancêtres les Gaulois, étymologiquement, parce que la Gaule en hébreu ça se dit Gaula. Alors on se reverra donc à mon retour de voyage vers la fin.